Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Sainteté à ton nom. Il n'y a pas de nom au-dessus du tien, Seigneur. Il n'y a pas de nom plus grand que le tien. Tu remplis l'univers, c'est toi qui l'as créé, cet univers. Tout ce qui est, l'a été fait par toi. La complexité de la vie. Seigneur, la vie, elle ne peut venir que de toi et de toi seul. Aucun homme ne peut fabriquer la vie. Tu es le maître de la vie, tu es le maître de toutes choses. Tu tiens nos vies entre tes mains, tu tiens le monde dans ta main. Et Seigneur, ton amour est immense pour ce monde que tu appelles encore à la repentance. Tu es saint. Tu es saint. Et quand nous chantons ta sainteté, nous nous sentons si petits, si indignes. Oh mon Dieu, si ce n'était ta grâce, où serions-nous? Si ce n'était ton amour, aucun d'entre nous, nous ne pourrions être sauvés. Veuille nous parler aujourd'hui. Veuille nous parler encore. Merci, Seigneur. Merci. Le peuple d'Israël a derrière lui plus de 5000 ans. Plus de 5000 ans. D'histoire. Je me souviens, avec ma femme, nous étions en Israël, juste au moment de la célébration des 5000 ans d'Israël, on nous a donné des diplômes signés par le maire de Jérusalem pour tous ceux qui étaient à Jérusalem lors des commémorations des 5000 ans. Il y a quelques années en arrière, le temps passe vite, très vite, très vite. Une bonne moitié de l'histoire, de cette histoire, s'est passée en dehors de son territoire national. Une grande partie de l'histoire d'Israël s'est passée hors de son territoire national. C'est le peuple le plus spécial, le plus extraordinaire de l'histoire des hommes. Pour cela, j'aimerais vous rappeler ce passage qui se trouve dans Nombre 23, verset 9, la deuxième partie du verset, où il est dit « Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » C'est un passage clé. « Sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » Un peuple à part qui n'est pas dans un ensemble de nations. Un ensemble de nations qui adorait toutes sortes de faux dieux, d'idoles. Un peuple spécial, un peuple extraordinaire de l'histoire des hommes. Un peuple que Dieu a choisi et qu'il a voulu afin de se révéler au monde à travers lui. Je suis sûr que Dieu a cherché, elle a cherché à par qui il pourrait se montrer, se révéler au monde. Vous savez, il y a eu la création, ensuite il y a eu la chute, ensuite il y a eu Caïn, il y a eu Abel, ensuite il y a eu les patriarches, mais il y a eu sous toute cette branche d'infidèles de Caïn, de sa descendance. Il y a eu toutes sortes de déviations dans l'humanité, d'idolâtrie, de toutes sortes, de tout genre. Et même on ne recherchait plus Dieu. Dieu a cherché. Il a cherché. Il y a eu des hommes, des héros qui se sont levés. Des patriarches, des hommes fidèles. Mais malheureusement, l'homme, en général, a toujours glissé, toujours plus bas, dans l'idolâtrie et dans l'occultisme. Il y a eu la tour de Babel. Il y a eu tous ces scandales de l'homme qui a tourné son dos à Dieu. Mais Dieu s'est préservé toujours quelque chose, un reste, car il voulait sauver l'humanité. Pour en découvrir l'origine de ce peuple d'Israël, il faut remonter au premier livre de la Bible, qui est le livre de la Genèse. Abraham, qu'on a appelé le père de la foi, le père des croyants, vivait à cette époque-là à Ur, en Chaldée, Ur des Chaldéens, avec son père et ses frères. Son frère Haran, qui engendra Lot, mourut à Ur. Le père d'Abraham, Terah, quitta Ur des Chaldéens avec son petit-fils Lot et Saraï, femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Une direction divine, inconsciente à ce moment-là. Ils étaient tous avec bien d'autres, des descendants de Sem, fils de Noé. Des descendants de Sem, Sem, Cam et Japhet. Ce n'est pas que seuls les Israélites soient des Sémites, oh non. Mais aujourd'hui, le mot de Sémite et antisémitisme s'adresse toujours à Israël, alors qu'il y a bien d'autres peuples qui sont des descendants de Sem. Mais l'humanité vit dans toutes sortes d'illusions et de préjudices et de pensées, décisions, de choses qu'ils avalent sans vérifier. Ils arrivèrent à Charan, ville de Mésopotamie, sur les rives du Bélic, un affluent de l'Euphrate, où ils habitèrent et où Terah, père d'Abraham, mourut. Nous trouvons cela dans Genèse 11, au chapitre 11, à partir de verset 29 jusqu'à 32. Vous pouvez le lire pour vous-même. Dans toutes ces villes, à Ur et à Charan, on était adorateur d'un faux dieu, le dieu Sin, le dieu lunaire. Mais voici que Dieu se révéla à Abraham, car il a cru dans le Dieu unique. Le monde d'alors servait de multiples dieux, de multiples représentations à travers des idoles de tout genre. Mais nous devons savoir, et nous le savons par la lecture des cinq Écritures, que derrière chaque idole, il y a un démon qui cherche l'adoration de l'homme. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï, il lui a donné ses commandements qui sont valables jusqu'à aujourd'hui. Certaines personnes pensent que l'Ancien Testament, c'est quelque chose de passé. Nous n'avons pas besoin de l'observer. Et encore d'aujourd'hui, des gens racontent toutes sortes d'histoires. Je l'ai vu sur l'Internet. Et même des emails qui m'ont été envoyés, comme si l'Ancien Testament était passé, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Non! Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Tu ne te feras point de Dieu, d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, et tu ne te prosterneras point devant elle. Ce commandement n'est pas abrogé. C'est les commandements des rites du passé. Des rites du passé sont abrogés. Les commandements moraux ne sont pas abrogés. Nous devons savoir que derrière chaque idole, il y a un démon. Et le diable, déjà, cherchait par tous les moyens à dévier l'humanité. Parce que Dieu avait mis son empreinte sur l'homme. Faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image. À notre image. Et à cause de cela, l'ennemi cherchait à détruire l'homme à cause de l'image de Dieu qui est en l'homme. Mais Dieu voulait se révéler au monde, à l'humanité ignorante, aveugle, afin de les sauver. Avant Abraham, il y a eu beaucoup d'hommes fidèles qui ont marché dans la vérité. Mais chaque fois, il y a eu des assauts de l'ennemi pour replonger l'humanité dans les ténèbres. Mais Dieu n'a pas lâché. Il aurait pu tout détruire et tout recommencer. Non, Dieu a un plan avec cette humanité. Et son plan se réalisera. Et ce plan passait par Israël. Et il passe toujours par Israël. Ce Dieu puissant. Où Dieu pouvait-il trouver un homme intègre qui croit au Dieu unique? Il l'a trouvé dans ce pays éloigné, dans la personne d'Abraham. Dieu l'appela. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia, alléluia. Donc, pas seulement Israël, mais toute l'humanité sera bénie en toi, à travers toi, à travers ta descendance. Car j'ai un plan de salut pour l'humanité toute entière, et ce plan se réalisera à travers ceux que j'ai choisis de ma propre souveraineté. Ce n'est pas qu'ils soient supérieurs aux autres, plus intelligents que les autres, ce n'est pas qu'ils soient meilleurs que les autres, nous le voyons dans l'histoire d'Israël, pas meilleurs, non, mais la grâce de Dieu a voulu se manifester. Et là, nous voyons la grâce de Dieu, la grâce extraordinaire et merveilleuse de l'amour de Dieu envers l'humanité tout entière. Il n'a pas abandonné Israël. Et parce qu'il n'a pas abandonné Israël, il n'a pas non plus abandonné le monde entier. Oh, la grâce de Dieu. Mais Dieu agit comme il veut, malgré les incartades, les infidélités, les violations des commandements de Dieu, les violations de l'alliance que Israël a commis dans son histoire. Dieu a tenu sa part de l'alliance. Abraham est en premier lieu stationné là au nord du Négev, dans la région de Beersheba. Il vivait sous la tente, entouré de ses troupeaux et de ses serviteurs. À 99 ans, Dieu lui confirma les promesses faites à 40, des années et des années dans le passé. Et nous voyons ça dans Genèse 17, 4. Dieu parla ainsi à Abraham. « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une foule de nations. » Nous continuons la lecture au verset 6 à 8. « Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Et Sarah était stérile. Et Abraham était devenu vieux ainsi que sa femme. Dieu lui dit des choses insensées pour l'intelligence humaine. Mais Dieu ne sait que faire de la sagesse des hommes. Ce qu'il veut se réalisera. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Voilà. C'est-à-dire, je fais alliance avec toi et avec tous ceux qui sortiront de toi. Dans toute leur génération. Voilà, je répète. Dans toute leur génération. Alliance. Ce sera une alliance perpétuelle. Répétition. Dans toute génération, ensuite perpétuelle. Qui ne sera jamais rompue. Du moins de ma part, dit Dieu. Je fais alliance avec toi. Une alliance, ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Les clauses de l'alliance. Je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi. Ça, ce sont les promesses de Dieu. C'est la part que Dieu, dans laquelle Dieu s'engage dans cette alliance. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer. Je te donnerai le pays et à ta descendance le pays dans lequel tu viens d'immigrer. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Croyez-vous qu'une parole que Dieu a prononcée avec un engagement solennel va passer comme cela? Oh non. Non. Dans les paroles de Dieu à Abraham se trouvent trois déclarations très importantes qui sont valables jusqu'à ce jour. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quelles sont ces déclarations? Premièrement, qu'ils seront une nation importante. Deuxièmement, qu'ils auront un pays, le pays de Canaan. Troisièmement, qu'ils seront en bénédiction au monde entier. Voilà les trois déclarations que Dieu fait à Abraham vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ses descendants. L'existence du peuple d'Israël ne s'explique pas par une question de race, non. Ou une question de religion, non. Mais son existence se fonde sur le choix du Dieu souverain. Sur le choix du Dieu souverain. Ce qui distingue Israël, ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de religion, non, mais sur le choix du Dieu souverain. Israël est le peuple de Dieu, dont Abraham est l'ancêtre. Parce que choisi par Dieu pour donner naissance à une postérité destinée à jouer un rôle des plus importants dans les événements du monde, surtout en ce qui concerne la foi. Malgré ses égarements, Dieu n'a jamais abandonné son peuple, ni le plan qu'il avait à travers ce peuple, car la promesse demeure et se réalisera en entier. Pas une parole de Dieu ne passera. Les trois promesses: être un peuple, avoir un pays, être en bénédiction, ont eu leur réalisation une première fois. Mais à cause de l'infidélité d'Israël, à cause de l'idolâtrie dans laquelle ils étaient tombés, ce n'est pas qu'ils avaient abandonné la loi de Moïse, les prescriptions de la loi et les sacrifices, non. Mais ils avaient ajouté, si bien que le culte mosaïque était devenu une forme sans que le cœur y soit, une forme et de l'hypocrisie. À cause de leur infidélité et de leur idolâtrie et de leur refus de revenir à Dieu et d'obéir à ses commandements, malgré l'avertissement de tous ses prophètes qu'il a envoyé, lorsqu'on lit la Bible et qu'on lit tous les avertissements de ces prophètes que Dieu a envoyés pour avertir le peuple des jugements qui tomberaient sur eux s'ils ne se repentaient pas, personne ne les a crus. Et ces jugements sont tombés tels que Dieu l'avait voulu pour les juger. De sévères jugements sont tombés sur eux dans le passé. Leur foi n'était devenue que formalisme, rite, apparence pieuse, mais hypocrite. Combien de nos religions dites chrétiennes aujourd'hui ne sont-elles pas de l'hypocrisie, avec des ajouts à la parole de Dieu, des choses que Dieu n'a jamais voulu ni commandé, mais fabriquées par les hommes, le cœur de l'homme, quel qu'il soit, juif ou grec, ou congolais, ou suisse ou allemand, le cœur de l'homme est le même. Frères et sœurs, le péché est attaché au cœur de l'homme, mais Dieu n'a pas abandonné. Oh non, ni Israël, ni le monde entier. C'est ainsi qu'ils n'ont pas reconnu leur Messie, Jésus-Christ, et qu'ils l'ont livré aux païens pour qu'ils soient crucifiés. Ils attendaient un Messie glorieux, extraordinaire, fantastique, qui dominerait, politiquement parlant, le monde. Mais Dieu a donné son Fils pour bien plus qu'un pouvoir politique. C'est pour la transformation de l'homme tout entier. Et eux, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne voulaient que la suprématie d'Israël sur les autres nations et la libération du joug romain sous lequel ils étaient. Mais ils n'ont pas cru en lui malgré ses miracles, ses prodiges, sa parole, malgré tout ce que les prophètes ont dit. S'ils avaient seulement lu Ésaïe 53, s'ils avaient seulement lu quelques-uns de ses psaumes, ils auraient vu et connu que ce Messie était d'abord appelé à souffrir pour le salut du monde, mais ils étaient complètement aveuglés par leur religion qui était devenue une religion morte, avec des principes justes au départ, mais qui était devenue sans vie à cause de leur cœur dur. Et c'est ainsi qu'en l'an 70, l'empereur romain Vespasien voulut réprimer des révoltes des Juifs qui voulaient se libérer du joug romain. Les armées romaines, sous la direction de Titus, le général Titus, entrèrent à Jérusalem. Après plusieurs mois de siège terrible, on a tous ces récits dans des livres qui en parlent en détail. Quand j'ai lu tout cela, toute cette histoire, j'ai frémi. Comment, Seigneur, as-tu pu laisser de telles choses se passer? Oui, c'est vrai. Ils ont tourné le dos à leur Messie et le jugement devait tomber. Le temple fut incendié. 1 100 000 juifs israélites périrent dans ces batailles. 900 000 autres furent emmenés comme esclaves et vendus sur les marchés d'Égypte, en Alexandrie. Dans Deutéronome 28, 62, il est écrit, après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Au deuxième siècle, il y eut un nouveau soulèvement de ceux qui avaient échappé et qui étaient encore restés sur la terre d'Israël. Un soulèvement qui était conduit par Bar Kochba, regardé au début comme étant un Messie, même par le plus grand sage de l'époque, un rabbin, Akiva, il s'appelait, qui est renommé. Mais ensuite, après sa défaite, la défaite de cette révolte, tous les Juifs le rejetèrent et le considérèrent comme un imposteur, car s'il avait été le Messie, il aurait vaincu. Cette révolte fut écrasée par le sang, dans le sang. Le peuple fut chassé du pays par l'empereur Adrien. Vous devez connaître une partie de cette histoire, mes frères, qui fit passer la charrue. Il fit passer la charrue sur l'emplacement du temple, accomplissant la parole du Seigneur dans Matthieu 24, 2. Voyez-vous tout cela, dit-il à ses disciples. En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Chacune des pierres, après l'incendie du temple, a été renversée par les soldats romains parce que l'intérieur du temple était couvert d'or. Et comme le temple avait brûlé, l'or avait fondu. Et pour récupérer l'or, on a roulé et déplacé toutes les pierres pour ramasser l'or qui avait coulé par l'incendie. Michée nous dit, au chapitre 3 et au verset 2 dans l'Ancien Testament, « C'est pourquoi c'est bien à cause de vous que Sion sera labouré des centaines d'années avant. » C'est à cause de vous, hypocrites. C'est à cause de vous, religieux, mais vivant loin de des commandements et de la loi de Dieu. La religion ne suffit pas. Il faut l'expérience et la rencontre avec Dieu. C'est pourquoi c'est bien à cause de vous que Sion sera labouré comme un champ et que Jérusalem deviendra un monceau de pierres et que la montagne du temple deviendra une hauteur couverte de forêts. Ces choses se sont passées. C'était en l'an 135. Il ne restait alors plus que quelques dizaines, vous m'entendez, que quelques dizaines de juifs, d'israélites sur la terre promise. En l'an 135, quelques dizaines. Tous les juifs ont été dispersés à partir de ce temps à travers le monde entier. Mais ils n'ont jamais perdu leur identité. Beaucoup de peuples sont perdus dans la masse des autres nations. Où sont les Hittites aujourd'hui? Où sont les Moabites? Où sont les Ammonites? Et on pourrait parler de tant de peuples absorbés, avalés, oubliés dans d'autres cultures, ramassés, on appelle les Arabes. Et puis voilà. Mais le peuple juif, non, jamais absorbé. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur lui malgré sa rébellion. Dieu s'est engagé et ce qu'il a dit se passera. Hors de son pays, Israël conserva l'espoir de reconquérir sa terre même par les armes. De nombreux faux messies se sont levés avec leurs mystiques et leurs belles promesses qui n'aboutirent à rien. Jésus l'avait dit dans Marc, chapitre 13, verset 22. Il avait dit, « Il s'élèvera de faux Christ ou Messie. » Christ, c'est le mot grec. Messie, c'est le mot hébreu. Malgré tout, Israël maintient son unité et son identité sans jamais être assimilé. Et pour nous, c'est un grand signe. Dieu s'occupe du monde à travers Israël. Sa religion, le judaïsme, et son culte, dirigé par ses rabbins dans les synagogues, puisqu'il n'avait plus de temple, maintient son unité spécifique. Durant 18 siècles, très peu d'Israélites revinrent sur leur terre. Très peu. Jusqu'à ce que naisse le mouvement national qui lui donna son indépendance au XXe siècle. Alors, désormais, un nouvel exode fut amorcé, dont nous sommes témoins. Mais avant cela, que de larmes, que de haine, que de tuerie contre ce peuple, que de persécution qui n'a jamais été, ce peuple qui n'a jamais été assimilé. Et pour cela, on l'a haï, qui a gardé son identité. Dieu l'a gardé à cause de ses promesses et de son engagement vis-à-vis de ce peuple qui est un signe au milieu des nations. Israël est un signe au milieu des nations. Vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes devenu athée et tout ce que vous voulez. Peu importe, regardez ce qui se passe. C'est Dieu qui parle au monde. Ce qui lui est arrivé, peuple maudit, certes, chassé, c'est vrai, avait été prédit à l'avance. Vous le lisez dans Deutéronome chapitre 28. Les bénédictions et les malédictions. Quand vous lisez les malédictions, si le peuple le rejetait, c'est exactement ce qui s'est passé. Si le peuple rompait les clauses de l'alliance contractées avec leur père, entre leur père et Dieu, eux, descendants, héritiers de la promesse, en rejetant Dieu, les jugements tombaient sur eux et ils le savaient, lisez Deutéronome 28. L'antisémitisme est le sentiment qui anime les ennemis d'Israël. Quoique il y en ait beaucoup de sémites dans le monde qui ne sont pas israélites. Mais aujourd'hui, c'est devenu, c'est attaché à l'israélite. Voilà. Un tel sentiment ne peut pas être dans le cœur d'un véritable chrétien. Non. Un véritable chrétien aime Israël. Et tous les chrétiens qui militent contre Israël ne sont pas des chrétiens, sachez-le. C'est un christianisme païen. Et combien de milliers de chrétiens à travers le monde vinrent en aide à Israël? D'autres le persécutèrent au nom du Christ. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'Israélites, quand on parle de christianisme, ils pensent au christianisme qui les a persécutés dans l'histoire, que ce soit en Europe, en Espagne, et dans beaucoup de pays du monde. On a persécuté les Juifs avec le nom de Christ. Et pour beaucoup qui ne connaissent pas ce que nous connaissons, le christianisme les haït. Et Christ est pour eux une chose horrible, car on les a persécutés au nom de Christ. Beaucoup durant la dernière guerre, beaucoup de chrétiens fidèles, durant cette dernière guerre mondiale, ont caché des Israélites au péril de leur vie. Demandez à ma femme quand elle était une petite fille. Dans leur maison, ils recevaient des Juifs. Et ils cachaient là, c'était un passage. Ils les gardaient un jour ou deux. Et ensuite, le papa avec la petite Johanna, à cette époque-là, sortait vers le soir, la nuit tombante, en prenant la petite fille avec eux. C'était comme une garantie vis-à-vis de ces nazis qui se promenaient partout. Et ils conduisaient ces Juifs à une autre cache, en suivant un itinéraire qui pourrait peut-être les sauver de la mort. Merci. C'est ce qu'a fait son papa. C'est ce qu'a fait sa maman. Et la petite fille a suivi. Les petites filles vieillissent, c'est vrai. Et pour moi, c'est une joie d'avoir marié cette petite fille. Beaucoup de ces hommes et de ces femmes ont été fusillés pour avoir aidé des Juifs. Beaucoup de persécutions ont été menées contre les Juifs à travers toute l'histoire. On n'a pas le temps d'en parler en détail, mais il y a de quoi pleurer. Des massacres épouvantables les décimèrent au Moyen Âge, chassés de France, chassés d'Angleterre, chassés d'Espagne. Puis ils devinrent, lorsque la tempête fut accalmée, ils revinrent dans ces pays. En Ukraine, l'histoire nous dit qu'il y eut un véritable carnage et 1,5 million juifs furent déportés vers l'Asie dans des souffrances horribles. La persécution déclarée par Hitler et le régime nazisme des nazis en 1933 jusqu'à la fin de la guerre mondiale en 1945, entraîna la mort de 6 millions de juifs, d'israélites, dans des conditions les plus épouvantables, les plus affreuses. Si vous allez en Israël, ne manquez pas d'aller voir ces musées où on a rassemblé les témoignages de la souffrance de ces gens par où ils ont passé. Je ne peux pas vous donner tous ces détails ici. Le temps me manque. Israël aurait dû disparaître au milieu des nations si hostiles à son égard. Le simple fait qu'Israël soit encore un peuple après tant de persécutions sanglantes révèle un miracle et prouve que la Bible ou la parole de Dieu a dit vrai concernant ce peuple. Israël et la Bible sont inséparables. Ce peuple ne peut disparaître, car il a été choisi par Dieu pour une mission dans le monde, car par eux, le miracle de la subsistance est manifeste. Par eux, le monde entier est béni. L'Assemblée constituante française en 1792 adopta un décret d'émancipation en faveur des Juifs en France. À partir de ce moment-là, les Juifs, les Israélites, eurent les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen français. Ils n'étaient plus tenus de vivre dans des quartiers séparés, des ghettos, et obligés de porter un vêtement particulier qui les distingue des autres. Ce fut un événement considérable dans leur histoire. À la suite de la France, tous les pays d'Europe adoptèrent cette émancipation. Au 19e siècle, les Juifs étaient émancipés en Europe. Ils obtinrent la nationalité du pays où ils résidaient. Mais, malgré cela, ils conservèrent l'empreinte d'un peuple mis à part. Israël est et reste le peuple choisi, mis à part, selon la volonté de Dieu. Il ne sera jamais absorbé, assimilé, noyé parmi les nations. Leur rejet du Messie, qu'ils n'ont pas reconnu, malgré qu'il en soit parlé largement dans les Écritures et dans les prophètes, ce rejet du Messie de la part d'Israël a été un bénéfice pour les nations. Oui, et c'est ce que Paul nous déclare clairement dans ses épîtres. Paul, le Juif. C'est ainsi qu'indirectement, ils ont été une bénédiction pour les nations de ce monde. Les persécutions dont ils ont fait l'objet à travers les siècles, jusqu'à ce jour, parlent très fort de la haine des hommes contre Dieu. Une personne qui a de la haine pour Israël manifeste sa haine contre Dieu. Il peut parler de Dieu tant qu'il veut, mais parce qu'il a de la haine contre Israël, il a de la haine contre Dieu. Dieu a veillé sur ce peuple pour le conserver, afin que sa promesse en sa faveur se réalise un jour et que sa grâce se manifeste à travers ce peuple pour toutes les nations à travers Jésus-Christ le Seigneur, Jésus le Juif. Eh oui, vous n'aimez pas les Juifs, vous n'aimez pas Jésus. Jésus le Juif par excellence, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don de Dieu à travers Israël pour le monde entier. La promesse faite à Abraham commence à se concrétiser une seconde fois. Une seconde fois, d'une façon combien plus magistrale que la première. Et le miracle est encore plus grand. Plus grand en ce 20e siècle passé, lorsque le 15 mai 1948, l'État d'Israël a été proclamé par M. Ben-Gourion. Il débuta sa déclaration de l'indépendance de la nation, de la création de la nation en ces termes. Voici ce qu'il a dit. La terre d'Israël a été le lieu de naissance du peuple juif. Là se forma sa personnalité spirituelle, religieuse et nationale. Là, il écrivit la Bible pour la donner au monde entier. Voilà ce qu'a dit Ben-Gourion. Le docteur Weizmann, professeur de chimie en Angleterre, fut élu président de l'État. Nous voyons de nos propres yeux la résurrection de cette nation sur son sol avec la résurrection de sa langue d'origine, l'hébreu, qui était une langue morte pendant des siècles. L'hébreu qui a repris naissance. Que le Seigneur bénisse Israël. Ceci signifie que nous sommes à la fin de la fin des temps et bientôt au début d'une ère nouvelle. Cette ère nouvelle, nous l'attendons bientôt. Et beaucoup d'entre nous ne connaîtrons pas la mort. Oh non, mes frères, Jésus est à la porte. Et cette ère nouvelle, c'est le règne du roi Messie, Jésus, à Jérusalem, qui est la capitale éternelle d'Israël, qui deviendra capitale mondiale durant le règne du Messie, du roi Ouin, et chef de toute la terre avec son peuple. Israël est le peuple choisi de Dieu, le peuple mis à part selon la volonté divine. Conformément aux révélations bibliques, ce peuple ne sera jamais ni exterminé, ni assimilé par les nations. Et je répète ce passage de Nombre 32:9. Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. On a voulu les assimiler, mais ils ont toujours été à part. L'heure du réveil d'Israël a commencé, dispersée à travers le monde entier, mais ne formant qu'un tout indivisible. Ils comprirent que la tentative d'assimilation ne mettait pas fin à l'antisémitisme. C'est une confrérie internationale qui met les nations dans l'inquiétude. Ceci ne veut pas dire que les Israélites soient parfaits. Et nous connaissons bien des cas jusqu'à notre époque d'Israélites qui ont abusé. Mais ceci n'empêche pas que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Faisons-nous meilleurs, faisons-nous mieux dans la gérance de l'argent. Israël doit revenir sur ses terres selon les prophètes du passé. Ézéchiel 37:1 nous dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Et le texte nous dit que c'était le type d'Israël, des os secs. Est-ce que ces os secs peuvent revivre? Dit le Seigneur au prophète. Ô Seigneur Éternel, toi seul tu le sais. Toi seul tu le sais. Oui, il le sait. Et vos os secs revivront, car il est le maître de la vie. Prophétise, et que la chair recouvre ses os, et que la peau recouvre cette chair, et que les nerfs reviennent sur ses corps. Prophétise, fils d'homme. Il prophétisa, et il vit la chair revenir, il vit la peau recouvrir les corps. Mais il est dit, il n'y avait point d'esprit en eux. Ah, l'esprit, c'est la vie. Oui, c'est vrai, il y a la chair, il y a la peau, tout est là en Israël. C'est vrai, le corps entier est là. Mais encore, il faut que l'esprit vienne en eux. Et dès l'instant où l'esprit rentre en eux, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et ils se lamenteront, nous dit la parole de Dieu. Comment se sont-ils fait tromper par l'ennemi de telle façon? Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici ce qu'ils disent, versets 11 et 12. Voici ce qu'ils disent: nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les ossements desséchés symbolisent Israël, mais ils ne sont plus desséchés aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous assistons à la reconstitution du peuple en une seule nation sur la terre promise à Abraham et à sa descendance. Il y aura un réveil spirituel de la nation tout entière et ce jour arrive. Jérémie 16:14 à 16. C'est pourquoi voici que les jours viennent, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les Israélites, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les Israélites du pays du nord et de tous les pays où il les avait bannis. Je les ramènerai sur leur territoire que j'avais donné à leur père. Mais croyez-moi, ce territoire, il est plus grand que celui que possède aujourd'hui Israël. Croyez-moi. Ézéchiel 20, 42, il est dit, « Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le territoire d'Israël et dans le pays que j'avais fait serment à main levée de donner à vos pères. » Dieu a fait serment. Dieu respecte sa parole. Quand vous êtes en Israël, vous réalisez que vous êtes dans un pays autonome, un pays organisé, un pays indépendant. Ils ont leur langue, ils ont leur drapeau. Voilà. Il y a un grand chandelier en monument, chandelier à 7 branches, en face de la Knesset à Jérusalem, avec sculpté toute l'histoire d'Israël, si vous voulez, avec des figurines en bas-relief. Israël est devenu un peuple libre. Et tout ce qui fait un État, en politique et en économie, Israël, là, on bâtit, on plante, le désert refleurit de toutes parts. Vous voyez à travers le Negev, nous y sommes allés avec ma femme, des plantations immenses, des entreprises extraordinaires. Cette terre a été abandonnée et déserte pendant des siècles, pendant toute la domination turque. Sur ce peuple, sur cette terre, tout était sec et désert. Mais la nation revit par les efforts du peuple auquel cette terre appartient. Le Messie reviendra, il apportera la paix et ce sera en parfaite sécurité. Ésaïe, Ézéchiel 28, 25 à 26, ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, lorsque je recueillerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est disséminée, je serai sanctifié par elle aux yeux des nations et ils habiteront sur leur territoire, celui que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils habiteront sur le territoire. Quel territoire? Celui que j'ai donné à mon serviteur Jacob, descendant d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Ils y habiteront en sécurité. Oh, ce ne sera pas l'insécurité comme il y a encore aujourd'hui. Ils y habiteront en sécurité. Ils bâtiront des maisons. Ils planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité. Deux fois, c'est répété. Quand j'accomplirai les jugements, quand j'accomplirai les jugements contre tous ceux d'alentour qui les méprisent, et ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Écoutez, cette prophétie a été prononcée des centaines et des centaines d'années avant notre temps. Tout Israël doit rentrer dans son pays. Le plan de Dieu est de retirer toutes ces brebis éparpillées dans le monde entier pour revenir sur leur terre. Lisons encore ce passage dans Jérémie 30, verset 3. « Voici que les jours viennent, parole de l'Éternel, où je ferai revenir les captifs de mon peuple Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leur père. » Et ils en prendront possession. Qui es-tu, ô ONU, de t'opposer à cela? Qui es-tu, Amérique, de t'opposer à cela? Qui es-tu, Iran? Qui es-tu, Égypte, ou quelque pays que ce soit? La volonté de Dieu se réalisera. Oh, la prétention et l'orgueil de l'homme, la haine de l'homme. Ésaïe 11, 12. Il rassemblera les bannis d'Israël et il les recueillera, les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Beaucoup de passages de l'Écriture nous parlent de ce retour et ceci se passe de nos jours. Encore deux versets avant que nous terminions. Ésaïe 43, versets 5 à 6. « Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. » Et encore Ésaïe 49, 12. « Les voici, ils viennent de loin, les voici, les uns du Nord et de l'Ouest. » Il y a une chose remarquable dans ces deux passages. Quand le prophète, inspiré par le Saint-Esprit, parle de l'Occident et de l'Ouest, ceci concerne bien notre temps, les derniers jours, les jours du retour actuel, puisque du temps du prophète, il ne pouvait pas être question d'un exil en Occident. Toutes les guerres, les déportations se sont faites de l'Est. De l'Est et jamais de l'Ouest. Mais là, ce passage se rapporte à notre temps, mes frères. À notre temps. Voilà. Je te rassemblerai de l'Occident. À cette époque-là, jamais l'Occident n'inquiétait Israël. Jamais. Voici, ils viendront de loin. Voici les uns du Nord et de l'Ouest. Voilà, ceci nous concerne à nous aujourd'hui. Frères et sœurs, bientôt, Jésus, le Messie, va revenir. Toutes les nations du monde vont se tourner contre Israël pour l'anéantir. Ceci se prépare. La Bible nous en parle. Une grande coalition de toutes les armées du monde. Mais Dieu interviendra. Israël sera dans une désolation incroyable, impossible de résister à cette coalition immense de millions d'hommes et d'équipements. Les nations du monde voudront écraser Israël et ceci se prépare. Mais c'est à ce moment-là que le Messie interviendra et anéantira toutes ces armées. La parole de Dieu nous dit qu'ils prendront des mois pour ensevelir tous les corps. Tous ces détails, la Bible nous en parle. La Bible nous en parle. Et Israël sera dans les frontières promises à Abraham, qui va du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Que vous soyez d'accord, oui ou non, la Bible a parlé. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est vraie. Tu ne mens pas, Seigneur. Nous sommes si petits et des fourmis sur cette terre, et pourtant si prétentieux. Si prétentieux. Ô Dieu, prépare-nous pour ce grand jour. Tu viens bientôt. Tu nous parles encore à travers ton peuple. Tu nous parles encore à travers ta sainteté et ta justice. Tu n'as pas épargné ton peuple qui est tombé dans l'injustice et l'idolâtrie. Vas-tu épargner le monde à cause de sa méchanceté, de son idolâtrie et de son orgueil? Des jugements tombent, terribles vont tomber sur ce monde. Seigneur, mon Dieu, tu nous parles. Rends-nous sensibles, je t'en prie, à ce que tu nous dis dans ta sainte parole. Seigneur, merci. Nous te prions pour la paix de Jérusalem. Nous te prions pour la paix de ton peuple. Nous te prions, Seigneur, pour ta grâce. Manifeste-la encore aujourd'hui envers ton peuple. Mais n'oublie pas les nations. Secoue encore les nations par ta parole et que les hommes par milliers se tournent à toi, le Dieu puissant. Nous voulons te demander de sanctifier les offrandes et les dîmes qui te sont présentées maintenant par tes enfants et que cela serve à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous dire qu'une deuxième offrande, une deuxième fois, les paniers vont passer afin de faire une offrande pour Israël. D'accord? Êtes-vous d'accord? Levez la main. Si vous levez la main, c'est que vous allez donner quelque chose pour Israël aujourd'hui. D'accord? Vous êtes d'accord? Ah, je préfère ça. Merci Seigneur.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.